les podcasts de Radio Vatican.
Dans l'Église, on a besoin de tout le monde. Tel est le titre de l'exposé du cardinal Philippe Barbarin lors d'une rencontre le 15 octobre avec des divorcés remariés. L'archevêque de Lyon a présenté dans sa cathédrale le chapitre 8 de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia du pape François. Ce chapitre, intitulé « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité », revient sur les blessures de nombreux couples dans l'Église, celles marquées notamment par la rupture du lien matrimonial. Dans de nombreux diocèses, cette réalité est parfois vécue douloureusement. Cette soirée lyonnaise avait pour but d'écouter aussi certains de ces chrétiens qui cherchent parfois leur place dans l'Église. Une place qui n'est pas négligeable, nous a confié le cardinal Barbarin.
Il y avait une profondeur d'écoute assez incroyable, une assez grande émotion. C'était dans une atmosphère de prière, simple. Et ensuite, moi j'ai fait un exposé d'une vingtaine de minutes sur Amoris Laetitia 8, mais surtout en disant ne pas oublier le reste, il ne faut pas se cristalliser sur la question du chapitre 8. J'aime bien cette phrase du cardinal Schönborn qui dit « Attention, le cœur de cette exhortation, lisez d'abord les chapitres 4 et 5 par exemple. » Et puis après, il y a eu 6 témoignages qui étaient très variés.
Est-ce qu'il y a des témoignages parmi les 6 personnes qui sont venues parler, qui vous ont particulièrement touché? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de cela?
Si vous voulez, chacun raconte son histoire. Il est là parce qu'il est croyant, il est là parce qu'il aime Jésus. Et il est là parce qu'il y a eu une brisure, une rupture dans sa vie. Donc une souffrance. Et cette souffrance, comment je la vis? À l'intérieur de la logique des sacrements. Donc dans les sacrements, il y a le baptême qui est une histoire d'alliance, et le mariage aussi, c'est une histoire d'alliance. Mais l'Eucharistie aussi, mon corps livré, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Mon corps livré, c'est vraiment l'aventure du mariage aussi. Et donc, cette harmonie entre tous les sacrements, quand le sacrement du mariage a explosé ou a vécu cette rupture, il touche le reste. Alors, on sait très bien qu'il y a une unité entre eux tous. On entend cette parole de l'Église, et puis on veut la vivre et la respecter, et on peut ou on ne peut pas. Et donc on a, avec un conseiller spirituel, avec quelqu'un à côté, nous, on avance, on chemine, et on dit, bon, cette parole de vérité, je l'entends dans ma vie, mais ma vie, il faut bien que je la vive. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu un peu toute la palette. Donc il y en a qui ont dit, ben, on a très très longtemps, j'ai fait ça, puis au bout de 12 ans, ben, je suis revenu à la communion, ou d'autres, ça, puis j'ai rencontré un prêtre. Oh, des fois, les prêtres, ils contredisent entre eux, etc. Donc on voit bien que c'est une recherche des gens, ou aussi une recherche des prêtres, et que tout le monde a ce désir de vivre et faire vivre les autres, dans la logique de l'alliance, bien sûr. Et qu'après, il faut l'adapter à chacune des situations. Je me suis permis de citer saint Thomas, par exemple, en disant, ben, voilà, il y a une règle générale que tout le monde connaît. Et puis après, quand on entre dans le cas particulier, les cas particuliers, eh ben, il y a des exceptions, même des exceptions se multiplient, ce qui se comprend très bien. Évidemment, il ne faut jamais prendre une exception comme une règle générale.
Si on reprend le chapitre 8 d'Amoris Laetitia, comment comprendre ces fragilités dont parle le pape François et surtout comment les rejoindre?
Voilà, les comprendre, tout le monde les comprend, parce qu'on est tous fragiles. Après, le problème, je pense que la grande question, c'est que dans cette blessure, qui était déjà une souffrance de leur vie, bien sûr, est-ce que le mot que j'ai le plus entendu, c'est « on s'est senti exclu ». C'est ça qui ne me va pas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la famille, vous avez quelqu'un qui est malade. D'accord, il est malade, vous faites encore plus attention à lui, si c'est vos enfants, tout ça. Et à l'intérieur de l'église, on a fait l'inverse. Vous n'êtes pas dans les clous d'or. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Enfin, c'est exactement le contraire de la logique de l'église. Ben là, ils ont raison, il faut reconnaître. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'église, moi j'aime beaucoup cette phrase de Benoît XVI, par laquelle j'ai terminé. Il dit, dans l'Église, on a besoin de tout le monde. C'est dans la toute première homélie qu'il avait faite quand il venait d'être élu pape, donc on est en avril 2005, il dit, chacun de nous est voulu par Dieu, chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu, chacun est aimé, chaque personne est nécessaire. Donc ce que je voulais leur faire comprendre, c'est que vous, même dans votre souffrance actuelle, qui vous semble être une impasse, en fait, vous apprenez beaucoup, et vous pouvez aussi beaucoup nous apprendre. Et moi, à l'intérieur de l'Église, comme un pasteur, je dis, venez s'il vous plaît, on a besoin de vous, pour qu'on voit que le chemin de la vie chrétienne, ben, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Et que il y en a des difficultés, des souffrances, et votre propre souffrance va nous aider à vivre, nous, nos incertitudes, nos méandres et nos difficultés, et va nous donner du courage. Nous sommes faits les uns pour les autres, nous sommes des frères et des sœurs, et donc c'est pour ça que j'aimerais bien que nous entre-aidions tous.
Alors justement, vous dites tout le monde a sa place dans l'Église, alors quelle est réellement celle des divorcés remariés aujourd'hui?
Ça dépend des personnes, c'est comme pour tout le monde. Il y en a qui sont très doués pour, je ne sais pas quoi, moi, s'occuper des enfants parce que c'est des merveilleux pédagogues. D'autres pour la musique et la liturgie parce qu'ils sont dans la louange. D'autres pour s'occuper des personnes isolées, des malades, de l'attention, de la miséricorde. Il y a 1000 services qui sont rendus à l'intérieur de l'Église. Si vous voulez, à l'intérieur d'un diocèse de Pine-Paroisse, entre le conseiller financier et celui qui va visiter les malades tous les jours, bon, bah, il y a de la place pour tout le monde. Ce qui nous est commun, c'est l'amour de Jésus. Je sais son amour. Je sais que son amour ne me manquera jamais. Je sais qu'il est toujours en train de me tendre la main, qu'il est toujours prêt à être généreux avec moi. Et moi, à l'intérieur de moi, tout d'un coup, il y a une porte qui se ferme, il y a un refus, il y a une esquive, etc. Et donc, voir comment les autres s'en sortent eux-mêmes à l'intérieur de leurs difficultés, de leurs souffrances, ça peut nous aider. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des grandes souffrances. Il y a aussi les souffrances dont on ne parle jamais. Par exemple, moi je connais un couple comme ça, ils ont déjà 10 ans de mariage, ils n'ont pas d'enfants, et on parle toujours des personnes homosexuelles, on parle toujours des couples de divorcés remariés, et nous c'est comme si on n'existait pas. À la sortie de la messe d'ailleurs, on s'en va tous les deux, parce qu'on ne supporte plus de voir des familles avec 4 et 5 enfants qui jouent et tout, et personne n'a une parole attentive pour nous. Ce sont quand même des très grandes souffrances. Donc je trouve, chacun a son paquet de souffrances, que nous devons nous aider les uns les autres à porter ce qui est la difficulté ou la souffrance de notre propre vie. Et en fait, la mienne, y compris les ratés de ma vie, parce qu'il y a eu des ratés dans ma vie, bah, ça va mettre de la miséricorde dans mon cœur, ça va rendre à la fois plus ardent et plus humble mon désir de la rencontre avec Jésus et de vivre selon sa grâce. Et bah, ça va aider les autres. Donc c'est ça que je leur demande. Qu'ils s'engagent là où ils veulent. Oui, par exemple, quand j'étais curé de paroisse, il y avait une dame merveilleuse qui était divorcée et remariée, un enfant du premier mariage et deux ou trois du second. Elle était responsable des catéchismes des CM1 et CM2. Elle était à la messe, elle était là debout, elle était au milieu, tout le monde la connaissait, toutes les familles la connaissaient. Elle préparait la première communion des enfants, elle poussait les mamans, les papas qui ne s'étaient pas confessés depuis leur mariage et même avant à y revenir pour la première communion de leurs enfants. Et elle ne communiait pas. Et quand je disais, enfin Isabelle, toi tu ne communies pas? Et à la réelle, elle disait, t'en fais pas, le bon Dieu est très généreux avec moi. Il ne me manque rien. Il y avait en elle une joie énorme, si vous voulez, un rayonnement considérable. Elle vivait sa souffrance à elle, mais elle avait avec une confiance en Dieu, une foi dans la générosité de Dieu pour elle, ce qui fait que nous ne communions pas de la même façon. Nous, les prêtres, par exemple, on communie à toutes les messes. Bah, dis donc, il y a des jours, on est franchement indigne de cela, quoi. Alors, on est obligé de communier à chaque messe. Mais quand on voit ceux qui se battent, vous voyez, pour se rendre digne de cette communion, pour dire, Seigneur, je ne suis pas digne, mais tu m'appelles. Attention, il faut quand même que je me prépare. Vous voyez, quand on les voit dans leur combat, je pense que ça nous réveille tous. On ne va pas communier de manière automatique. Dans l'exposé que j'ai fait hier, j'ai parlé de la figure de Charles Péguy. Vous savez, quand il revient à la foi, il dit à son épouse, j'aimerais bien qu'on puisse se marier à l'église pour que je ne sois pas en état de concubinage et pour que je puisse aller communier à la messe. Et cette femme lui dit, mais tu peux manger toutes les hosties que tu veux, mais moi je ne mettrai pas les pieds dans une église. Et alors que Maritain lui conseillait le contraire, en disant, bah, t'as qu'à lui imposer, il dit, ben non, c'est pas l'habitude de violer ma femme. Ma femme, je la respecte, je respecte sa liberté, elle est profondément libre. Et à la réduite, j'allais à l'église, et j'étais là comme un pilier au fond de l'église. Les gens pensaient que j'étais excommunié, mais moi je savais bien que je n'étais pas ex-christianisé. Il savait qu'il était dans la grâce de Dieu et que dans son combat intérieur, qui était une souffrance incontestablement, et ben, en fait, il a apporté énormément à l'Église. Ben, qu'est-ce qu'il a apporté? Et ben, le fait que ses écrits, menés dans cette souffrance spirituelle, hein, un siècle plus tard, ils sont pour nous des merveilles, ils nous apportent encore énormément.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.